Bonsoir tout le monde. Nous continuons notre pénétrante étude du Perek Relek. Nous sommes à la page Tadikhe Amoud Bet, ce qui vous donne 188 en chiffres arabes en haut. Les allergies printanières continuent leur méfait d'ampleur nationale. Vous allez donc devoir souffrir le fait que le cours soit un peu plus lent à cause des difficultés respiratoires du conférencier. Hein ?
Tant qu'il n'est pas humide.
Donc ça va, ouais. Bon. Où est-ce qu'on en était ? Ben, on en est à la... voilà. Veria Bayomahou. Alors, vous revenez dans les... Il y a ici trois dimensions de lignes. Il y a des lignes étroites, des lignes moyennes et des lignes très larges. Vous prenez dans les lignes très larges et vous comptez 2, 4, 6, 8, 9 lignes. Ça commence par Veyé Asé. N'est-ce pas? Veyé Asé et vous, Slechiskiyahu, Vesiato. Et là, on commence notre texte. Vehaya Bayom Ahu. Ce sera en ce temps-là. Yassou Sivlo. Me'al shichmecha, ve'ulo me'al tzavarecha, ve'hubal ol mipene shamen. Je traduis. En ce jour-là, son fardeau quittera ton épaule, ton échine, son joug quittera ton cou, et le joug sera détruit par la graisse. Hein? Eh bien, en ce jour-là.
Le jour.
Il y a les deux dans le verset. Veria Bayom Ahu.
Mais bien sûr.
Veria Bayom Ahu, ce sera en ce jour-là. C'est-à-dire le jour où le joug de Sadhririv sera levé. Rappelons que du temps de Sadhririv, la Judée n'était pas indépendante. Elle avait néanmoins un roi. Le roi, c'était Chizkiyahou. Mais le roi Chizkiyahou en question était sous domination assyrienne. N'est-ce pas? L'empereur d'Assyrie de l'époque s'appelait Sanhérib. En français, dans les Bibles en français, écrit Sennachérib. Mais en hébreu, c'est Sanhérib. Et le Sanhérib en question dominait la Judée. Et le prophète nous annonce que viendra un temps où ce joug sera enlevé. Le joug sera détruit par l'abondance de graisse. Si vous prenez la forme figurée, la forme, disons, pas du tout figurée, mais ce que ça représente, imaginez un bœuf sur lequel on essaye de mettre un joug, mais il est tellement gras que le joug éclate. D'accord ? Verhubal ol, vipede shamen. Le joug sera détruit à cause de la graisse. D'accord? C'est clair, non? Alors, la Guémara interprète ici le mot shamen, non pas dans le sens de gras, mais dans le sens d'huile, shemen. Il faut dire que l'huile et le gras, c'est pratiquement la même chose. Alors, c'est quoi l'huile en question? Quelle est l'huile qui va détruire le joug de Sadhririv? Amar Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Yitzhak Nafra enseignait Hubal ol shel Sadhririv bipnei shamno shel Chizkiyahu. Le joug de Sadhririv a été entamé à cause de l'huile de Chizkiyah. Sheaya dolek bevate kenesiot ou bevate midrashot, qui brûlait dans les synagogues et dans les maisons d'études. Ça veut dire que du temps de Chizkiyahu, tout le monde étudiait la Torah. Et pour étudier la Torah, jour et nuit, il faut de l'éclairage. L'éclairage de l'époque, c'était de l'huile. L'huile, ça coûte cher. Qui c'est qui payait l'huile? Le roi. C'est-à-dire, l'éclairage était aux frais de l'État. Hein? D'accord. C'est-à-dire qu'ils étudiaient au rot. C'est ça? C'est l'huile de Chizkiyahou qui brûlait dans les synagogues. Mais à ça, qu'a-t-il fait? Naat herev Al Petach Betabidrash. Il a planté une épée à l'entrée du Betabidrash. Ve'amar. Et a déclaré. Kolbi she'eno osek batorah. Yiddaker beherevzo. Ceux qui n'étudient pas la Torah seront transpercés de cette épée. Et il a imposé l'étude par la violence. La violence étatique. C'est l'État qui oblige d'étudier la Torah sous peine de mort. On n'a jamais vu de chose pareille. Et bien là, c'est ce qu'a fait Hizkia. Hizkia, on peut dire, a fait le contraire de ce que faisait son père. Son père, c'était Ahaz, qui lui a interdit l'étude et qui a fermé les maisons d'études et les synagogues. D'accord ? Donc il y a, en réaction, si vous voulez, violente contre le comportement de son père, Hizkia va dans le sens inverse. Batku midan va Beersheva. On a vérifié depuis Dan jusqu'à Beersheva, c'est une façon figurée de dire dans tout Israël. Velo batzu ama aretz. On n'a pas trouvé un ignorant. Migvat vad Antiparas. Gvat c'est dans la région de Beth Shemesh. Antiparas c'est dans la région de Rosh Ha'Arim. Velo batzu tinok vetinoket. On n'a trouvé ni enfant ni enfante. Ish veisha, ou d'homme ou de femme, shelo ayu bekiin vilchot tuma vetahara, qui n'était pas versé dans les règles de l'impureté et de la pureté. Val oto ador hu omer, c'est de cette génération-là dont il est dit, ve'aya bayom ahu, ce sera en ce jour-là, yahaye ish aiglat bakar u shtetzon, un homme vivra d'une génisse et de deux chèvres. Veomer, Bayom Ahu, et on dit, en ce temps-là, Yie Kol Makob Asher Yie Sham Elef Gefen, Belef Kesef, tout endroit où il y avait 1000 vignobles pour 1000 pièces d'argent, les Shabir ou le Shahit Yie, cela deviendra des ronces et des épines. Afalpi, chez Elef Gefen, Belef Kesef, les Shabir ou le Shahit Yie, même des vignes. Des 1000 vignes qui valent chacune 1000 pièces d'argent seront des ronces et des épines. Pourquoi ? Parce que les gens ne cultivaient plus la terre, ils étudiaient la Torah. Donc ça veut dire que du temps de Hizkiyahou, tous les deniers publics ont été orientés vers l'étude de la Torah. N'est-ce pas ? C'est le rêve de chasse. Qui n'est apparemment n'est pas.
Pas bon, la terre
était. La terre était laissée en friche. Bon, il faut payer le prix. Le problème, c'est que on peut dire que ce qui est particulier à Chesed-Heriv, à Hizkiyahou, c'est que c'est un religieux extrême. Il s'intéresse exclusivement à la spiritualité. Rien d'autre ne l'intéresse. Donc, le résultat, c'est que le spirituel absolu, Hizkiyahou, à l'emporter sur le matérialiste absolu, Sanhérive. On avait déjà vu la dernière fois que le type d'impérialisme que représente Sanhérive, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme brutal, c'est-à-dire la puissance de la force, l'exaltation de la force en tant que force. On avait analysé les textes auparavant. Disons, même quand Sanhérive emploie des arguments de type, pourrait-on dire, religieux, il le fait uniquement au service de la violence, et pas le contraire. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il y croit vraiment, il s'en sert comme propagande. Et donc, il était important à l'époque que pour s'opposer à Sanhérive, il y ait un roi spiritualiste. Ça marche, c'est vrai. Mais c'est à cause de ça, on avait vu la dernière fois, l'avant-dernière fois, c'est à cause de ça que Hizkiyahou n'a pas dit le Hallel lorsqu'il a reçu l'indépendance. Parce qu'il n'a pas considéré qu'un événement politique méritait les honneurs du Hallel. N'est-ce pas, vous rappelez de ça ? On avait étudié ça juste avant. Yom Ha'atzmaout, excusez les inconvénients que vous cause mon état. Non, c'est vrai, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Oui.
Inversement, on peut dire que parce qu'il a fait tout ça, qu'il a été à deux doigts d'être.
Oui, justement, c'est parce qu'il a fait que ça qu'il n'a pas été le Mashiach.
Ce serait pas un spirituel. Or là, après ça,
il n'est pas seulement spirituel. C'est-à-dire que le Mashiach a le droit d'être religieux. On peut dire même, on attend ça de lui. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'il est Mashiach. Le fait qu'il est Mashiach, c'est sa capacité de libérer Israël. D'accord ?
Il a obligé tout le peuple à faire la Torah ?
Oui, il a obligé tout le peuple à étudier la Torah.
Et puis le libre-arbitre après, non ?
Comment le libre-arbitre ? On peut toujours refuser. La contrainte, ça n'empêche pas le libre-arbitre. Hein ? Hein ? On peut mourir si on veut. Alors, il faut bien comprendre. Quand quelqu'un fait quelque chose sous la contrainte, c'est-à-dire sous la menace, ça veut dire qu'il a perdu son libre-arbitre. Ça veut dire qu'il préfère vivre plutôt que de mourir. Il y en a d'autres qui préfèrent mourir que de faire quelque chose qui est contre leur conscience. C'est ça ? Le libre-arbitre, c'est quelque chose dans l'être même. C'est créé par Akadosh Baruch Hu. Hein ? Il l'a forcé, oui, bien sûr. Est-ce que c'est une bonne chose ? Il semble que non. Bien que Rabbab dit que le Mashiach imposera la Torah à Israël. Mais l'expression employée par le Rabbab, c'est l'expression « kofé est Israël ». Or, le mot « kofé » chez le Rambam veut dire « amener à la persuasion ». C'est-à-dire, finalement, le contraindre à reconnaître. Mais il faut qu'il reconnaisse. D'accord ?
C'est pas parce qu'il a obligé le peuple à suivre la Torah, en fait, c'est pas Mashiach. C'est pas ça, la Torah. C'est pas le peuple qui, de manière authentique, va retourner vers la Torah.
Oui, c'est-à-dire qu'il a essayé de forcer un peu la main à l'histoire. Oh, il y a un problème. Il y a effectivement un problème. Je sais pas s'il savait, mais enfin, il a essayé. Il y a tant de manières d'essayer d'être le Mashiach. Oui, il y a tellement de manières. Par exemple, le roi Salomon, Shlomo, il a essayé aussi. Il a épousé pour ça 1000 femmes. Alors, du coup, ça veut dire épouser 1000 femmes ? Ça va être cinglé ? Alors, je veux dire, 100 femmes, encore, ça peut. Mais 1000 ? C'est-à-dire, c'est un chiffre. Il a vécu 52 ans. C'est un chiffre absolument incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui a pris ? C'est-à-dire, l'exagération du chiffre veut dire qu'il avait une intention autre que simplement ses désirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a épousé toutes les princesses du monde. Parce qu'il voulait réaliser la paix universelle. Il pensait le faire à travers son palais. Oui, il s'est fait avoir, parce que le peuple n'était pas du niveau. Il y a des tentatives de ce genre. On peut comprendre. Chaptaïti, c'est autre chose.
Vers le mal.
Ouais, c'est vers le mal. D'accord. Enfin, il y a toujours des idées comme ça. C'est-à-dire des idées de réaliser l'achèvement de l'histoire le plus vite possible. Et Chizkiyahou a essayé. Ça aurait peut-être pu marcher. Il semble que le prophète était content. Et puis le prophète a été déçu quand il a vu qu'il n'est pas capable de comprendre ce que c'est que la politique. Il ne peut pas dire le Hallel sur sa libération. D'accord ? Hein ? Bar Korva, ça n'a pas marché pour une autre raison. Ça, on avait étudié, je crois, le texte sur Bar Korva. C'est que ce n'était pas encore l'an 4000. Il fallait attendre l'année 4000. Ça, c'est encore bien plus tôt. Oui, alors justement, comment se fait-il que, puisque c'est encore moins proche de 4000, comment est-ce qu'on a pu penser ? Oui, mais, d'après ce qu'on avait étudié dans le texte de la semaine dernière, tu n'y étais pas, hein ? Si le roi avait été capable de dire le Hallel, alors l'histoire aurait changé. C'est-à-dire, même ce déterminisme aurait pu être brisé. Hein ? Hein ? Parce que pour Bar Korva, c'était déjà après les deux destructions. C'est-à-dire, il y avait déjà, depuis l'époque de Chizkiyahou, ce décret que ça serait repoussé pour longtemps. D'accord ? Bon, enfin, revenons donc à notre histoire. Ve'usaf shel alchem. Mais il faut bien comprendre que c'était peut-être qu'il n'y avait pas tellement le choix du temps de Chizkiyahou. C'est-à-dire, pour réagir à la violence politique de Sanhérib, il fallait faire l'opposé. Donc l'opposé, c'était le spirituel. Peut-être pour réparer également ce qui s'était fait du temps de son père. C'était le contraire. Vous voyez ça, des extrêmes. Ve'usaf shel alchem, usaf et chassil. Votre butin sera ramassé comme ramasse les sauterelles. Amar la Navi l'Israël. Ça veut dire que le prophète dit à Israël, Isfou shel alchem, ramassez le butin, c'est-à-dire après la déconfiture, la défaite de Sanhérib. Alors il y avait une quantité énorme de butin qui a permis à Israël de vivre en paix, dans la tranquillité, pour pouvoir étudier la Torah pendant très longtemps. Et le prophète dit à Israël, ramassez le butin. Un bon rouleau, ils lui ont dit, Livzoz ou l'achlok. Faut-il prendre chacun pour lui-même ou partager? Amar lahem ke osef et hasil. Comme il aura répondu, comme les sauterelles ramassent. Ma osef et hasil. Kol echad ve echad leatzmo. Af shel alchem. Kol echad ve echad leatzmo. De même que les sauterelles, chacune des sauterelles prend pour elle-même. Là aussi, vous en avez assez pour que chacun prenne pour lui-même. Pas besoin de faire un partage. C'est-à-dire que c'était une quantité gigantesque. Amroulo. Où est-ce que c'en est? Amroulo, ils lui ont dit. Vahalo, mamon, aseret la shvatim, au ravbo. Ils ont dit, mais il y a un problème, c'est que les biens des 10 tribus sont mélangés avec ce butin. En effet. Les Assyriens avaient fait la conquête des 10 tribus du Nord. Et donc, tout le butin d'Israël était mélangé au butin des Assyriens. Donc, on ne va pas voler nos frères, c'est interdit. L'otixol. Amar lahem, ke meshek gevim shokek bo. Comme ça vibre comme les vibrations des flaques. Gevim sont des flaques. Ma gevim alalu ma'alim et ta'adam et tumal et ta'ara. De même que les flaques, quand elles sont assez profondes, purifient l'homme, le font passer de l'impureté à la pureté. Il s'agit d'un mikvé, quoi. Af mamonam chez l'Israël, de même pour ce qui est de l'argent d'Israël. Kevan chez Nafal beyad ofde kochavim, biyad tier, dès qu'il est passé aux mains des nations, est purifié. Ah bon, c'est quoi ça? Bon, c'est une conception ici de ce qu'on appelle la propriété. Qu'est-ce que c'est que la propriété? C'est un problème de droit. Il y a des conséquences morales. Selon le droit romain, si j'ai fait l'acquisition d'un objet et que l'objet, par hasard, arrive sur la Lune, tout à fait par erreur, il est rentré dans une capsule Apollo, les astronautes ont fait tomber cet objet sur la Lune, ils sont revenus. Est-ce que l'objet est à moi d'après le droit romain? D'après le droit romain, l'objet est à moi. Parce qu'il y a eu acquisition légale de la propriété sur cet objet, donc il est à moi toujours. Quelle que soit la situation. Il peut être au fond de l'océan, il est à moi. Hein? Selon la halakha, certainement pas. La halakha ne reconnaît la propriété d'un objet que dans la mesure où j'ai l'espoir éventuel de m'en servir un jour. Mais si quelque chose est sorti du champ de mon utilisation éventuelle, il n'est plus à moi. Exemple amené par la Guémara. Il y a un objet emporté par un tourbillon dans l'océan. Alors le propriétaire dit « Oy va, voy, quel malheur, la bague de ma fiancée est emportée dans les profondeurs. » Arrive quelqu'un avec son sous-marin, il fait des recherches, il trouve la bague et il la ramène. Alors le type lui dit « Ah, ben c'est très gentil à vous de m'avoir ramené la bague de ma fiancée. » Il dit « Pas du tout, d'après la halakha, c'est pas à vous, c'est à moi. » Parce qu'à partir du moment où il n'y avait aucun espoir, disons, probable de retrouver la bague, eh bien c'est sorti du domaine de la propriété. De même que, par exemple, ce qu'on appelle le yéhouch en halakha. Le yéhouch, c'est le désespoir. C'est-à-dire, quand je suis désespéré de retrouver un objet que j'ai perdu, dès qu'on a entendu dire que je suis désespéré, celui qui le trouve après mon désespoir, c'est à lui. Même s'il a écrit mon nom, que c'est un souvenir de famille, etc., c'est à lui. Aux autres, c'est simple. C'est que la propriété n'est pas quelque chose de réel. C'est une sorte de fiction judiciaire, juridique. C'est-à-dire, il y a un accord de la société qui est que lorsqu'on fait telle ou telle chose, il y a le droit d'utilisation exclusif par le propriétaire. Mais en vérité, les biens de ce monde n'appartiennent à personne. Comment ? Ah, le verbe avoir n'existe pas en hébreu. Intéressant, effectivement. Ou bien on peut dire qu'il y a ici une rencontre intéressante entre la halakha et la théorie marxiste qui dit qu'il y a une sorte de communisme primitif. C'est-à-dire qu'à l'origine, les biens de ce monde sont au service de l'ensemble de l'humanité. Provisoirement, ils peuvent appartenir à quelqu'un. D'accord ? Mais la propriété n'est pas quelque chose d'absolu. Et donc, dès que quelque, par exemple, les biens des 10 tribus perdus, eh bien, ça leur appartient tant que les 10 tribus ont l'espoir de s'en servir. Dès qu'elles ont perdu cet espoir, eh bien, ce n'est plus à elles.
Lorsque les Israël sont sortis des Israël dans l'exil, oui. Est-ce que les chrétiens n'ont pas pris cette idée en disant on n'avait plus d'espoir de revenir ici, donc ça nous
appartient. Oui, alors le problème, c'est que nous, on a... Oui, mais la différence, c'est que nous avons toujours eu l'espoir. C'est-à-dire que nous avons toujours proclamé dans nos prières, dans nos protestations, c'est à nous, on y reviendra. On n'a jamais renoncé. D'accord ? Et ça, c'est très important, justement. Cette déclaration de non-renoncement empêche, justement, l'argument d'égoïsme.
Ça explique le nom de notre hymne national.
Atikwa, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est pour ça. Il y avait Edmond Flegg a écrit « Nous de l'espérance ». C'est ça les juifs, « Nous de l'espérance ». Excusez-moi. Bon. Oui. Oui.
En fait, la guerre, c'est comme la mer, ça veut dire quelque chose
au terrain. Exactement.
Oui. Mais dans la guerre où elles avaient conservé l'espoir de le retrouver, malgré tout, c'est perdu.
Quand il y a la guerre, c'est autre chose. La guerre est un acte de violence collective. C'est très fort. C'est comme la mer.
Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas pourquoi penser. Par exemple, les juifs ont perdu leur bien pendant la guerre
mondiale. Oui.
Alors, d'après la fin, ils n'auraient pas le droit de
le remettre. C'est pour ça qu'on se sert du droit international dans ces histoires-là. On va pas leur laisser ça.
Je sais bien. Ah. Mais d'après la fin, non.
Ah, il y aurait de quoi discuter, effectivement. Effectivement, c'est un sujet à ouvrir. Ne l'ouvrez pas. D'accord ? Il n'y a pas de feuilles, là ? Il y a plein de photocopies, hein, ceux qui n'ont pas. Oui. Il y a des photocopies en plus. En audio, en voilà. Je vais faire des avions. D'accord, bon. Donc, il y a ici une idée morale derrière ce principe de halakha, qui est que quelque chose m'appartient dans la mesure où je peux m'en servir. Amar Rav Huna. Rav Huna disait: Aeser Masaot Nasa Oto Racha Beoto Hayom. Ce méchant-là, il s'agit de Sanhérive, a fait 10 voyages en un jour. C'est-à-dire, il a eu 10 stations pour son armée le même jour. C'est-à-dire, quelque chose que l'on parcourt en 10 jours, lui, il l'a fait en un jour. D'accord ? Tellement c'était vite. Chez Nehemar, Baal Haït, il est passé par Haït, Avar Bemigron, il est arrivé à Migron, le Mirmash Yafkid Kelav, il dépose ses bagages à Mirmash, Avru Ma'avara, Geva Malonlanu, Harda Harama, Givat Shaul Nasa, Tzahali Kolech Badgalim, Hakshiva Laisha, Aniya Amatot Anatot, Nadeda Badmena, Yosheve Hagevi et Aizu. Donc ça, c'est la liste des différentes stations qu'a passé Sanhérive le jour même. C'est pas loin de là où il y a Migron actuel, effectivement. Et ce qui a donné beaucoup de mal de tête à Hizkiyahou quand il est passé par Migron. Mais est-ce que c'est sérieux cette histoire ? Que son armée, en un jour, a fait un voyage de 10 jours. Évidemment pas. C'est une parabole de la Guémara qui explique que l'attaque de Sanhérive étant, faisant partie de la providence divine, puisqu'on avait vu la semaine dernière qu'il y avait un serment de Dieu qui faisait amener Sanhérive en Eretz Israël, donc le moins d'empêchement matériel possible, il y aura. C'est-à-dire que ça va très vite. Mais non, à quelle vitesse ? À la vitesse que ça peut aller. Mais ça va très vite quand même. Alors à tel point que la Guémara va nous dire, il a fait 10 voyages en un jour. Pourquoi 10 ? Ce qui est parfait se compte par 10. Il y a 10 paroles qui ont créé le monde, il y a les 10 commandements, etc. Non, le problème, si vous comptez bien, vous voyez qu'il y en a plus que 10 ici. Donc la question de la Guémara, c'est « Hané, tout va à Vienne, il y en a encore plus que 10 ». Tu n'as pas bien compté. Réponse de la Guémara, Tzahali Koler Badgalim, élève ta voix Badgalim, Ce n'est pas une citation. C'est une exhortation du prophète vers Israël. Israël est appelé Bat-Galim. C'est ce qu'il dit. Navi ou Deka Amarla. C'est le prophète qui exhorte l'Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, en lui disant Tzahali Koler Bat-Galim, élève ou bien éclaircis ta voix, fille de Galim. C'est qui Galim? C'est Bito, chez l'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire la fille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi sont-ils appelés Galim? Chez Asu Mitzvot ke Galé Ayam, car ils ont fait des commandements comme les vagues de la mer. Ils ont accompli des mitzvot comme les vagues de la mer. Ah oui? Les Avot, ils ont fait des mitzvot comme les vagues de la mer? Pourquoi pas comme les arbres des champs? Parce qu'en vérité, les mitzvot qu'ont fait les Avot, ce n'étaient pas des mitzvot. C'était une préparation aux mitzvot. N'est-ce pas? Puisqu'ils n'ont pas reçu de commandement. Hein? Il n'y avait pas de Torah, ils n'ont pas reçu l'ordre de faire les commandements, donc on peut appeler ça des mitzvot. Ils ont fait des mitzvot d'une manière cachée. C'est-à-dire, les mitzvot qui, dans le futur, allaient se manifester, étaient déjà enfouis de façon, si vous dire, primitive dans le comportement des avot. Comme les choses sont cachées dans la mer. Parce que quand on parle de la mer, on parle toujours de ce qui est caché. Quand on parle de la terre ferme, on parle de ce qui est révélé. D'accord ? Il s'agit donc toujours d'une iglé et d'une istar. Akshiva laïcha. Quand le prophète dit écoute laïcha, il ne s'agit pas d'un endroit. Simplement un avertissement du prophète pour les générations à venir. De quoi s'agit-il? Mehaï latistafé. Ela istafei binvuchadnetzar arasha dematil ke arié. Sheneemar ala arié bisubocho. Ce que dit le prophète, il dit, tu n'as rien à craindre de Sanhérib, mais tu as à craindre de quelqu'un d'autre qui viendra après Sanhérib. De qui s'agit-il? De Nabucodonosor, en hébreu Nebuchadnezzar, qui lui ressemble à un lion. Or le mot laïch veut dire le lion. Et de lui, il faut avoir peur. C'est-à-dire, le prophète voit en filigrane qu'après la victoire contre Sanhérib, il y aura un autre conflit, et là, Israël perdra. Oui? Avec quoi? Non, c'est le mérite des Avot qui s'associe à la victoire contre Sanhérib. C'est ça que dit le prophète. Tzahali koler bat-galim. Éclaire ta voix, fille des Avot. Pourquoi fille des Avot? Parce que les Avot, avec leur mérite, permettent de vaincre Sanhérib. On voit d'une certaine manière, Sanhérib, c'est l'héritier de Nimrod. Nimrod, c'est le premier ennemi des Avot. D'accord? Et si donc les Avot ont pu surmonter la menace de Nimrod, alors leur mérite permet de surmonter également Sanhérib. C'est-à-dire, c'est l'opposition spirituelle matérielle. Ça, ça marche. Mais en vérité, il y a quelque chose d'autre dont il faut avoir peur. C'est la venue de Nebuchadnezzar dans deux générations. Deux générations plus tard, eh bien, Nebuchadnezzar a fait la conquête de la Judée et a détruit le temple. Donc, toute cette histoire de Sanhérib, c'était un sursis seulement. Mais pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar a-t-il réussi là où Sanhérib a échoué? Il avait un mérite. C'est-à-dire que quand Nebuchadnezzar vient, il a effectivement une supériorité morale sur Israël. C'est vrai que c'est un salaud. Mais il a quand même un certain mérite. Et ce mérite, nous allons l'étudier dans les pages à venir. Il était fils de Baladène. De Baladène. Oui, c'est écrit. Hein. Oui, alors, ça, effectivement, c'est son père, ou son grand-père, qui avait un mérite. Et ce mérite, on va l'étudier par la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas un absolu le mérite d'Israël par rapport aux nations. Il y a des cas où les nations ont quelque chose. Alors, chez Sanhérib, ça ne marche pas. C'est la force brutale. La force brutale ne peut rien contre Israël. Mais il y avait un mérite. Alors, quel était ce mérite? Ça, on l'étudiera dans les feuilles à venir. Istafeb Nebuchadnezzar Aracha, il faut donc que tu aies peur, que tu redoutes Nebuchadnezzar le méchant, qui est comparé à un lion, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Allah Arié Misuboho, un lion est sorti de ses broussailles. Maï. Ah, ici il manque la deuxième page. Bon, il n'y a pas de choix, il faut distribuer la deuxième page. Distribuer. Hein? Ça veut dire qu'il y a eu un mérite quelque part, chez l'autre.
Un mérite chez le
peintre. Oui, bien sûr. Par exemple, je me rappelle quand j'étais à Bethléem, en Milouim, j'ai fait une garde de nuit avec un soldat qui était, qu'on appelle Datil et Shéhavar, Datlash. Il me dit, tu comprends, la Torah, ça ne m'intéresse pas, les mitzvot, ça ne m'intéresse pas, j'y crois pas, tout ça, c'est des bêtises, etc. Bon, on discute. Une heure plus tard, parce que la garde était longue, il me dit, tu sais, il y a quand même une chose dont j'ai peur. Ah bon, je lui dis, tu as peur de quelque chose? Oui, oui. Quand je les vois, eux, on disait les Arabes, qui eux font la prière tous les jours et pas moi. D'accord? Bon.
Oui.
Oui, mais il fallait quand même qu'il ait un mérite pour le faire. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y avait les péchés d'Israël.
Ça veut dire que t'as rien fait.
Non. Ça veut dire que sans les péchés d'Israël, il n'aurait pas pu vaincre. Mais le fait que ce soit lui qui ait vaincu et pas un autre, c'est qu'il avait un mérite. Et ça, la Guémara cherche le mérite. Et elle le trouve. D'accord?
Pourquoi Israël devait être vaincu?
Hein?
Pourquoi Israël devait être vaincu?
Pourquoi est-ce qu'Israël devait être vaincu? Eh bien parce que il y a un moment. Disons comme ça. Quand dans le royaume d'Israël, il y a un idolâtre. Bon, ben, c'est grave qu'il y ait un idolâtre, mais on peut le juger. Imagine qu'il y ait 1 million d'idolâtres. C'est grave. Mais même si le tribunal ne fait rien, Kadosh Baruch Hu va le juger. Mais l'État n'est pas remis en question. Pour une raison très simple, c'est que l'État, lui, est officiellement contre l'idolâtrie. C'est-à-dire que si tu demandes aux institutions de l'État, est-ce que vous êtes pour les idoles? Non, pas du tout, nous sommes contre. Alors pourquoi vous ne faites rien parce que, contre le million d'idolâtres qu'il y a dans votre pays? Ah, écoutez, on ne peut pas toujours tout faire. D'accord? Mais l'idéologie dominante, c'est-à-dire officielle, s'oppose. Mais quand vient un moment où c'est l'appareil de l'État qui alimente l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, alors il faut détruire l'État. C'était le cas du temps de Ménaché, fils de Chizkia. D'accord? Voyez-vous. Où est-ce qu'on en était? Hein? Bon. Maï. Ah non, c'est pas ça. C'est la deuxième. Maï Aniya Anatot. C'est quoi ce que dit le prophète quand il dit elle est pauvre, Anatot? Anatot, c'est où? C'est Anata, aujourd'hui. C'est où ça, Anata? Au nord-est de Jérusalem. Oui, c'est pas loin d'ici. C'est au nord-est de Jérusalem.
Non, c'est pas sur la route.
Oui, c'est ça, c'est au nord-est de Jérusalem. C'est le patelin du prophète Yirmiyahou. Oui, c'est là qu'il habitait. Ouais.
Il était chez les Arabes.
C'était donc un arabe. Ou bien les Arabes sont des juifs. Ça reste à prouver. Vous savez, il y a un président de France, Chirac. Hein? Un jour, il a... Lorsqu'il y avait les événements du tunnel du Cotel, alors il y avait tout un branle-bas de combat, etc., on a attaqué l'esplanade des mosquées. Alors le grand Ramassi Truc a dit au président Chirac, mais enfin quand même, c'est l'emplacement du temple des Juifs. Réponse du président Chirac, ça reste à prouver. D'accord? Une hypocrisie incroyable. D'accord? Ça reste à prouver. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire qu'il ne sait même pas que les Juifs ne sont pas des Arabes. D'accord? Bon. Je dis toute similitude entre Chirac et Cherki, ou Sarkozy et Cherki. C'est une consonance purement accidentelle. C'est une coïncidence. D'accord ? Je lis donc tout. Aniya Anatot. Elle est pauvre, Anatot. Alors, qu'est-ce quoi cette histoire de Anatot ? Atid Yirmiya ben Helkiya ou Mitnabe Allah me Anatot. C'est-à-dire, Yeshayahu annonce que viendra un jour un prophète de Anatot. Il s'agit donc de Jérémie, qui lui va prophétiser contre Jérusalem depuis sa ville de Anatot. Dirtiv, ainsi qu'il est dit, Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu, parole de Jérémie, fils de Chilkiyahu, Mina Kohanim Asher ba'Anatot Beretz Binyamin, qui était parmi les prêtres d'Anatot dans le pays de Binyamin. Est-ce que c'est Yirmiyahu qui était Cohen ou son père? C'est ça que tu demandes? Bah oui. Ben Chilkiyahu. C'est le Kohanim. Yirmiyahu était à Cohen. D'accord? Hein? Bah oui. C'est comme l'histoire du type qui va chez le rabbin, qui lui dit: je veux devenir Lévi. D'accord? Je suis prêt à payer le prix, je veux devenir Lévi. Vous connaissez l'histoire, non? Alors, le type me dit, mais enfin, il n'en est pas question, tu n'as pas les vies comme ça. Il dit, je savais bien que vous vous opposerez, mais il s'agit de quand même 10 000 dollars. Alors, il m'a dit, non, pas question, pas pour 10 000 dollars. Alors, le type insiste, il rajoute un peu plus à chaque fois la somme. Et alors, le rabbin commence à penser, on pourrait faire un Talmud Torah, on pourrait retaper la synagogue, on pourrait faire telle et telle bienfaisance. Et là, il commence à réfléchir. À la fin, pour 200 000 dollars, le rabbin craque, il dit, bon, d'accord, il lui fait un papier, ici, vous êtes les vies, etc. Il dit, sans vous désobliger, mais si déjà vous êtes prêt à payer, pourquoi vous n'avez pas demandé à être Cohen? J'ai dit, monsieur le rabbin, chez moi c'est une question de principe. Mon père était Lévi, mon grand-père était Lévi, moi aussi je veux être Lévi. Ouais. Quoi? Bien sûr. Midame. Alors la question c'est, alors tout ça on a vu dans le, quand le prophète parle de Laïch, n'est-ce pas, la ville de Laïch, et alors on dit non, Laïch ça veut dire le lion, et le lion c'est Nebuchadnezzar, dont il dit qu'il est un lion. Où est-ce que c'est dit que Nebuchadnezzar est un lion? On dit Ari, Allah Ari Bissoubacho. Alors le problème c'est que le texte de la Torah, enfin de la Bible, emploie une expression différente pour parler du lion. La première fois c'est Laïch, et la deuxième fois Ari. Alors, est-ce que c'est la même chose? La Gemara dit, Bidame Atam Hari Acha Laish. Là-bas, on te dit Hari, et maintenant tu dis Laish. Amar Rabbi Yochanan, Shisha Shemot Yesh Lari. Rabbi Yochanan dit, le lion a six noms différents. Elohim, les voici. Hari, Kfir, Lavi, Laish, Shahal, Shahat. Donc, il y a six noms différents du lion. Hein?
La vie, c'est une lionne.
Non, Lévi-A, c'est une lionne. La vie, c'est un lion. Oui, oui. La vie, c'est un lion. Oui, d'ailleurs, ça ressemble au mot lion, d'ailleurs. La vie. La vie, Léo. C'est ça, ça ressemble. Oui. Alors, Iachi, Batsroulé. Alors, si c'est comme ça, il n'y en a plus 10, il n'y en a que 9. C'est-à-dire, on a exploité un peu trop les expressions du prophète. On a expliqué Aniya, Anatot, on a expliqué Akshivi, Laïcha et Batgalim. Alors, au début, on en avait 12, on en a enlevé 3. Il nous en reste 9. Alors, on dit non. Ivrou, Mahabara, passer à Mahabara, Tartelinou. Il s'agit de 2. Ivrou et Mahabara. Bon. L'essentiel, c'est qu'il y en ait 10. Le rhume des foins. Ouais, c'est ce qu'il y a écrit. Hein? Ouais, c'est un truc absolument terrible. Et alors? C'est fini. Voilà, c'est fini. C'est terrible. Ça fait déjà plusieurs jours que c'est comme ça.
Un complément, hein? De Telfast.
180 mg de quoi?
Telfast,
c'est quoi ça? Un antihistamine? Ah, quoi la faire? Oui. Non, mais les antihistamines, ça fait dormir.
Non, Telfast.
Ouais? Mais on en trouve ici?
Israël, il y a tout en Israël.
Telfast, ça existe? Bon. Il faut en prendre combien?
Un par jour,
tous les soirs. folie. Bon, on va voir. Bon. Monsieur Lévy. Bon. Ah maintenant, ce qui vient juste après, ça devient important, c'est le prophète dit que le Sadhériv arrive le jour même, après les 10 voyages, il arrive à un lieu nommé Nov. Nov, c'est probablement ce qu'on appelle aujourd'hui... Hein?
C'était la ville de Kohanim.
Oui, c'est Shoafat, à peu près. C'est là où il y a aujourd'hui Shoafat. Hein? De quoi, de? De Arnof? Non, non, rien à voir. De quoi? Non, c'est Shoafat, au nord de Jérusalem. D'accord? C'est un quartier aujourd'hui de Jérusalem. Shoafat.
Quoi? En face de Ramoth.
En face de Ramoth, Reches Shoafat, etc. C'est, enfin, on va rabattre Shkol d'ailleurs en face. On peut rabattre Shkol, on voit Shoafat. Alors c'est là la ville de Nov, où Sadhériv a pris ses quartiers. C'est ça? Bon. Alors qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Odayom Benov Lahamod. Le jour même, il s'arrête à Nov. Amar Ravuna. Ravuna disait, Oto hayom nishtayer me'avona shel Nov. Ce jour était resté à cause du péché de Nov. C'est-à-dire, la victoire fulgurante de Sadhériv, c'était pour expier le péché de Nov. Ah bon? C'est quoi le péché de Nov? Quand Shaoul a fait massacrer les Kohanim de la ville de Nov. C'est ça? Quel rapport avec cette histoire de Sadhériv qui se passe 400 ans plus tard? Oui. L'expiation de la bande de Yosef s'est faite 2000 ans plus tard. Et alors? Il faut expliquer pourquoi. Il faut qu'il y ait une justification à ce qui, dans un certain moment de l'histoire, se passe telle ou telle expiation. Ce n'est pas par hasard. Je veux bien, Alaba Marshava, et alors, mais pourquoi à ce moment-là? Si déjà, il y a certainement une raison. D'abord, c'est quoi le péché de Nov exactement? Vous avez dit, quand Shaoul a fait massacrer les habitants de Nov, qui est responsable de ce péché?
Jonathan.
Jonathan?
Non, c'est Shaoul.
Jonathan, il n'avait pas donné de quoi manger à David.
Oui.
Donc David avait besoin de manger. Oui. Donc il est allé chercher
une parole. À Nov. D'accord. Donc on peut dire que c'est Jonathan qui est responsable. On peut dire que c'est Shaoul. On peut dire que c'est le chef d'armée qui a fait ça, qui s'appelait Doeg. On peut dire aussi que c'est
David
lui-même. Or, il est très surprenant, on va voir dans la suite du texte, que la Gemara culpabilise David. C'est David qui est responsable d'avoir été persécuté. Très bizarre, cette histoire. Oui? Ben, l'histoire, c'est que le roi Shaoul commençait à devenir fou. Et donc, il suspectait David de vouloir le renverser. Et donc, David, qui se rend compte que Shaoul n'est pas bien disposé par rapport à lui, quitte la maison de Shaoul avec des soldats à lui, des hommes à lui, disons, et affamé, il se rend dans la ville de Nov. La ville de Nov est à 2 kilomètres du palais de Shaoul. De là-bas, on voit Nov. C'est-à-dire, le palais de Shaoul se trouvait dans un endroit qui s'appelait Givat Shaoul, qui est aujourd'hui Tel El Ful, de l'autre côté de la route de Shoafat. C'est ça? C'est-à-dire, des deux côtés de la ville, il y a le palais royal. D'ailleurs, là-bas, il y a également le début de construction du palais du roi Hussein. Il voulait construire là-bas son palais, et ça s'est arrêté à cause de la guerre des six jours. On a retrouvé là-bas les ruines du palais de Shaoul. Oui. Et donc, David, affamé, avec ses hommes, se rend dans la ville de Nov, chez les Kohanim. Il demande à manger. Étant donné qu'il n'y avait rien à manger pour David et ses amis, le prêtre lui donne le lechem apanim. Il n'y avait pas assez. Quoi? Il n'y avait pas assez, je ne sais pas.
Peut-être.
En tout cas,
juste avant le Shabbat.
Oui.
Ils avaient déjà la nouvelle.
Oui, la nouvelle fourrure de pain. Et donc, il donne le Lechem HaPanim, les 12 pains énormes de proposition, il les donne à David et à ses soldats.
Lechem HaPanim, ils ne sont pas pour le Beth Amidash ?
Hein ? Oui, alors, le Beth Amidash à l'époque n'existait pas, mais le Shulchan HaPanim avait été déplacé à Nov, et là-bas, il y avait un culte qui était rendu. Shiloh avait été détruite depuis longtemps, pas très longtemps, mais détruite quand même. Et donc, le culte était dispersé. Le Mizbéar se trouvait à Givon. Givon, c'est Eljib, à 5 km de là-bas. Et le Lechem HaPanim se trouvait à Nov. Alors, David prend ce pain, qui est autorisé que au Kohanim. Il le mange avec lui et ses soldats. Et non seulement ça, il prend avec lui l'épée de Goliath que l'on conservait dans le temple, dans le sanctuaire. Il la prend avec lui et s'en va. Quoi ? Il se le fait donner. Et il s'en va. Le roi Shaoul apprend tout ça. Donc, il dit, ah, vous les Kohanim de Nov, vous êtes de connivence avec celui qui veut me tuer. Il les fait massacrer tous par hommes, femmes et enfants, par Doeg. D'accord ? Est-ce que là, vous suivez l'histoire ? Alors, c'est une histoire absolument terrible. Ça prouve l'état mental dégradé du roi Shaoul. Ça prouve également les intentions malveillantes de Doeg, dont nous allons étudier par la suite la personnalité. Et David s'en va. Il y a ici une tâche qui, en fait, pèse sur la dynastie du roi David, parce que c'est un peu à cause de lui que se sont fait massacrer les Kohanim de Nov. Et cette tâche est payée un jour par la victoire de Sanhérive le jour même. Ça veut dire quoi cette tâche ? Ça veut dire qu'il y a un problème moral à la base de la royauté de David. Qui fait que si un empereur violent s'attaque à la dynastie du roi David, il peut avoir une victoire momentanée. C'est pour ça que le texte dit « Oh d'ailleurs, Benov la Hamod, c'est à cause de Nov qu'il peut encore tenir. » D'accord ? Vous avez compris ? La tâche de Nov est effacée. D'accord ? Mais ça a été payé ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de responsabilité de David. Oui ? Bien sûr. Mais il n'y avait plus quoi les fèches. Il y avait un boule bousse. Excusez-moi. Hein ? Mais quoi les fèches, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
C'est
lui qui... Quand on mange de la trouma... Kéret Vechomesh. D'accord. Mais là, c'est... Bon, ça, le problème de Kéret Vechomesh, c'est autre chose. Le problème, c'est que David... Ah, qu'il aurait dû payer. Et c'est pour ça que le Kéret a été payé, mais le Chomesh, on l'a payé à Chomesh. C'est ça ? Non. Hein ? Ouais. Il y a un chidouche sur Chomesh, là, vous avez vu ? Hein ? C'est Michel David qui a écrit.
Hein ?
Il fallait bien qu'il se défende. Et chercher une épée. Ben c'est celle-là qu'il a trouvée, c'est celle qu'il y avait. Alors évidemment, ça fait écumer le roi Shaoul. Il y a un quatrième dans cette histoire du roi Shaoul, il faudrait quand même que je vous lise ça dans le texte. Il y a ici le livre de Shmuel. Il y a un cas intéressant. Vayomer Amelech, le roi dit, il s'agit de Shaoul, la ratzim anitzavim alav, à ses courriers qui étaient à côté de lui, sobu. Tournez-vous, et mettez à mort les prêtres de Dieu. qui gam yadam im David, car ils sont alliés avec David. Vechiyado ki boreahu, ils savaient qu'ils s'enfuyaient de moi. Velogalu et osni, ils ne m'en ont rien dit. Alors il ordonne à ses soldats, à sa garde, de tuer les fils de les Kohanim. Que fait la garde? Velo avu avde amelech lishloach et yadam nifgoa bechoane Hashem. Il refuse. Il y a un serouf kuda. C'est un ordre, mais c'est un ordre immoral. Alors les soldats ne le font pas. Alors que fait le roi? Vayomer amelech le doeg.
Ça jurisprudence.
Exactement. Et alors le roi s'adresse à Doeg, il lui dit Sov ata ufga ba Kohanim. Alors il lui dit vas-y toi, massacre les Kohanim. Vayisov Doeg Edomi. Alors Doeg l'Edomite parti, vaifga hu ba Kohanim, lui tua les Kohanim. Vayamet bayom ahu, il mit à mort ce jour-là, Shmonim vechamisha ish nose ephod bad, 85 porteurs de ephod. Vet Nov ira Kohanim, ainsi que Nov la ville des Kohanim, Ika les Ficherev, il l'a massacré, Meish Vadisha Meolel Vayonek, homme, femme et enfant, Veshor Vahamor Vase, tout seul. Comment il a pu faire ça tout seul? Une ville entière? Bon, disons que dans la ville il y avait peut-être 300 personnes. Bon, on tue pas 300 personnes, merci. On tue pas 300 personnes comme ça, tout seul. Ça veut donc dire que Doeg avait des soldats. D'où est-ce qu'il avait des soldats? Ce sont les mêmes que tout à l'heure. Ce sont les soldats qui au début avaient refusé. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci ils ont accepté? Bon, Doeg, d'après la Gemara, était le président du Sanhédrin. Quand ils ont vu un rabbin qui leur disait qu'il faut accepter la pkouda, même quand elle est illégale, alors ils ont dit, bon, si le rabbin le dit, on y va. Toute ressemblance.
Il a fait un peu exprès d'aller quand même. Vous avez dit que c'est juste à côté.
Il n'avait pas le choix. Il était en route.
Il sentait qu'il était à Yerushalayim.
Non, il n'était pas à Yerushalayim. Il était à Givat Shaul, justement.
Donc à 2 km.
Ouais.
Donc à bout de 2 km, il est déjà affamé.
Oui, il faut bien qu'il mange tout. Il avait rien mangé toute la journée, j'en sais rien, moi, je sais pas. Il avait secta.
Si je m'en fais d'un endroit, je vais pas, au bout de quelques minutes, déjà
m'arrêter. Il avait secta, ça arrive. Depuis 2 jours, il était caché. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, 48 heures, on a faim. Oui. C'est l'histoire de Vayomer Yonatan, etc. Bon. Donc, en tout cas, David a une sorte de responsabilité, une tâche qui pèse sur sa dynastie, et donc s'est payé un jour par l'attaque de Sanhérif. Si, il est responsable d'avoir été innocent. Il y a une sorte de responsabilité de la victime. C'est intéressant quand même. Bon. Il aurait pu faire attention, il aurait pu mettre les formes. Amrele Kaldae, les astrologues lui ont dit, c'est à qui? Eh bien, à Sanhérif. Iazalt ha'idna yachaltla. Si tu vas aujourd'hui, tu vas réussir. Veila la yachaltla, mais si tu ne vas pas, tu ne réussiras pas. Orha de ba'al esagui e ba'asara yoma, saga bechad yoma. Une route que l'on met 10 jours d'habitude à traverser, il l'a traversée en un jour. Ki matou l'Yerushalem, quand il est arrivé près de Jérusalem, shadile bistrake ad de salik veyativ milaveshura. Alors il s'est fait mettre une sorte de tapis, et par le dessus du tapis un trône, et il s'est mis sur le trône pour bien voir Jérusalem. Kihazia izutar bene, quand il l'a vue, elle avait l'air petite à ses yeux. Jérusalem à l'époque était petite. Alors vous voyez, il s'est probablement mis sur le Harat Sofim, du Harat Sofim, la toute petite Jérusalem, c'est tout petit. Il dit, ah bon, c'est pour ça que je suis venu. Kihazia izutar bene, amar halada ikarta di rushlem de ala irgishit kol mashiriati. C'est à cause de cette ville de Jérusalem que j'ai amené toutes mes armées vers Alak Vashit Kol Medinata, et c'est à cause de ça que j'ai fait la conquête de tous les pays. Halo Izeira vers Halsham Mikol Kracher Amemayadich Vashit Mitkof Yedi. elle est plus faible, cette ville, que toutes les grandes places fortes des pays que j'ai vaincus par ma puissance. Allah vekam vanid bereshé. Et donc il a fait un mouvement de sa tête, ou maïté beide de sa main, al tour bemikdasha de Tzion, val zarta de Birushalayim, contre le temple de Jérusalem, de Tzion et les parvis de Jérusalem. Amar, il s'est dit, c'est pour ça qu'on dit Yenofef Yado Harba Tzion, okay? C'est la suite du verset. Od Hayom Benov Lahamod, il arrive grâce à Nov le jour même. Yenofef Yado, il fait un mouvement de battement de sa main contre Jérusalem. C'est de là d'ailleurs que vient le minhag d'attiser les braises de Yom HaAtzmaout. Yenofef, ça, Yado. Et donc il fait ce mouvement de mépris. Et il dit Amar Nishdebe Yeda Haidna. Alors on lui a dit, écrasons-la aujourd'hui. Amar Lehu Tabhitu Le Mahar. Attendez un peu. Demain, Aiteli Kolhad Vechad Minaychu Golme Harag Bine. Demain, chacun va s'emparer d'une brique de Jérusalem et on en finit. Et donc, c'est pour ça qu'il a passé une nuit, qu'il n'a pas attaqué le jour même. S'il avait attaqué le jour même, il aurait gagné. À nouveau, ça veut dire que Sanhérib méprise la supériorité morale, il ne pense qu'à la force brutale. Oui.
Pourquoi il a fait comme toi, le chemin des 10 jours, il prend un jour?
Non, c'est la Guémara reprend le verset. C'est la même chose. Mais cette fois-ci, c'est expliqué en araméen. Miyad, vayi balaylahu, et donc c'est pour ça que tout de suite après, la nuit même, vayetse malach Hashem, l'ange de Dieu sortit, vayar bemachane Ashur, il a frappé dans le camp d'Ashur, mea ushmoni vechamisha elef, 185 000, vayashkibu baboker, on se leva le matin, vine kulam pegari betim, et tous étaient des cadavres. Amarav papa, c'est ce que dit Rafapa, Haïnou de Amrinche, c'est ce que dit le proverbe, Bat Dina, Batal Dina. Lorsque le jugement a passé une nuit, eh bien le jugement est annulé. Voilà. C'est ce que dit. Tout ça, c'était donc à cause du mérite de Nov. Alors là, il y a un développement très important que fait la Guémara par la suite pour expliquer ça. Mais je suis dans un état de délabrement physique tel que je vais devoir arrêter le cours. Voilà. Et la suite, on fera au prochain numéro. Shalom.